Pendant cet été, je vous propose de faire un petit parcours ensemble. Un parcours qui se fera en étudiant une suite de récits bibliques, pour la plupart très connus. Je vous propose en fait qu'on explore ensemble le début du récit biblique, le début de la Genèse, les chapitres 1 à 11. Alors ce parcours que nous allons vivre ensemble, je lui ai donné un nom et je l'ai appelé « Il était une fois ». Parce qu'on va étudier le début du récit biblique, les débuts de notre planète, de notre monde, les débuts de l'humanité, et parce que justement tous ces textes, tous ces récits sont des histoires qui nous sont racontées. Et avant de commencer à parcourir ces histoires, j'aimerais vous parler très brièvement de leur auteur, la personne qui les a écrites. Alors la Bible attribue la rédaction des 5 premiers livres de la Bible à Moïse. Moïse, ce prince d'Égypte, qui est né de parents hébreux, puis qui a été recueilli et adopté par la fille de Pharaon, Moïse, en tant que prince d'Égypte, c'est une personne très instruite. Il a reçu une éducation très poussée, et ça va se ressentir dans tout ce qu'il a écrit, notamment dans la découverte du début de la Genèse, ce que nous allons faire ensemble. Nous allons voir que rien n'est écrit au hasard, les récits sont structurés d'une manière très brillante, très belle. On sent que c'est l'œuvre d'un érudit, une personne qui a reçu une grande instruction. Moïse, cet homme intelligent et instruit, guidé par l'Esprit de Dieu dans sa rédaction, a donc rédigé les textes que nous étudierons ces prochains dimanches. Et ce matin, nous commençons donc notre parcours « Il était une fois » par le tout début du récit biblique, c'est-à-dire le premier chapitre de la Genèse, dont je vous invite à suivre la lecture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit, « Qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer !» Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus, et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue « ciel ». Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, « Je veux que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. » Et ce fut ainsi. Dieu appela terre, la terre ferme, et mer, l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, « Que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers portant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. » Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit, « Que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires, pour que l'on distingue le jour de la nuit, et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux, afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit, « Que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. » Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte, et tous les animaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en ces termes, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles et des insectes, et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte, il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur sorte, et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Je pense que ce texte doit être peut-être un des plus connus de toute la Bible, mais ça doit être aussi un de ceux qui a le plus fait couler d'encre. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord sur le sens de ce texte, sur ce qu'il raconte. Mais avant de chercher, nous, à chercher le sens de ce texte, ce que nous en comprendrons, il faut commencer par savoir ce qu'il est. Est-ce que c'est un récit historique qui raconte des faits, qui décrit des événements, ou est-ce que c'est un poème qui va donc utiliser des images pour nous transmettre non pas une succession d'événements, mais un message global? Pour ça, regardons tout d'abord rapidement la structure de ce texte. Ce qui saute aux yeux assez rapidement, c'est qu'il y a un refrain. Un refrain qui revient six fois. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour, deuxième jour, etc. On aurait pu rajouter dans ce refrain, Dieu vit que cela était bon. Mais comme ça y est pas pour le deuxième jour, on peut pas vraiment le rajouter dans le refrain, ça y est pour tous les autres jours, pas pour le deuxième jour, donc on va garder juste ce qui revient tout le temps dans notre refrain, ce qui rythme notre texte. On a donc un refrain qui vient. Et maintenant, regardons les différents jours. Il y a six jours de création et un jour de repos à la fin. Et les six jours de création ont quelque chose d'étrange, qui nous choque, nous, occidentaux du XXIe siècle. Ça semble pas du tout logique, si on les prend dans l'ordre chronologique. C'est vrai, Dieu crée la lumière au premier jour, mais dans notre univers, c'est quoi la source de toute la lumière? C'est les astres. Notre soleil, les étoiles, c'est ça qui crée de la lumière, à part les ampoules qu'on a fabriquées plus tard. Mais si la lumière est ici créée au premier jour, les astres, eux, ne sont créés qu'au quatrième jour. Ça paraît bizarre. De la même manière, comment le refrain peut-il dire « il y eut un soir, il y eut un matin » alors que le soleil et la lune sont pas encore là? Sans soleil et sans lune, il n'y a pas de soir et il n'y a pas de matin. C'est bizarre. Quand on prend la succession des jours dans un ordre chronologique, on a l'impression que ça marche pas du tout. En revanche, il y a quelque chose qu'on peut remarquer. Il y a des mots qui reviennent beaucoup dans certains jours. Par exemple, au jour 1, Dieu crée la lumière, le jour et la nuit. Et au jour 4, Dieu crée les luminaires pour faire de la lumière et pour présider au jour et à la nuit. Pareil entre les jours 2 et 5, au jour 2, Dieu crée le ciel et la mer. Au jour 5, Dieu crée les animaux marins pour remplir la mer et les oiseaux pour remplir le ciel. Toujours pareil, entre les jours 3 et 6, Au jour 3, Dieu crée la terre sèche et les plantes. Au jour 6, Dieu crée les animaux terrestres et les humains pour remplir la terre sèche en se nourrissant, entre autres, des plantes. Au final, dans les jours 1, 2 et 3, Dieu crée des espaces, des lieux, des choses à remplir parce qu'elles sont vides jusqu'à présent. La lumière, le ciel, la mer, la terre sèche, tout ça est vide dans les jours 1, 2 et 3. Et dans les jours 4, 5 et 6, Dieu va remplir ces espaces avec des créatures dans l'ordre dans lequel nous sont racontés ces espaces, les astres, les oiseaux, les poissons, les animaux terrestres et les humains. Ce texte est donc organisé en deux groupes de 3 jours qui sont rythmés par un refrain. Et ces deux groupes de 3 jours nous racontent la création, non pas dans un ordre chronologique, historique, mais dans un ordre thématique. Dieu crée des espaces, puis Dieu les remplit. Deux groupes de 3 jours, organisation thématique, refrain. Ce texte ressemble quand même beaucoup à un poème. Un poème qui ne va donc pas chercher à nous raconter la création de manière scientifique, chronologique, mais un texte qui va de manière poétique, imagée, structurée, nous raconter le vrai sens de l'œuvre de création que Dieu a faite. Et justement, si ce texte est un poème, s'il ne nous raconte pas des faits scientifiques, historiques, alors qu'est-ce qu'il peut bien nous dire sur l'œuvre de création de Dieu ? Eh bien, tout d'abord, ce texte nous dit que Dieu a créé toute chose par sa parole. Alors nous, on va naturellement comprendre que sa parole, c'est des mots. On comprend que Dieu a donné des ordres et les choses sont apparues. Eh bien, c'est pas aussi simple. Je suis désolé. En fait, cette affirmation « Dieu crée par sa parole », ça nous plonge dans un mystère. Le mystère de Dieu lui-même. Un Dieu qui est unique, un seul Dieu, mais un Dieu qui est aussi trois, trinitaire, qui est un et trois en même temps. Pourquoi je vous dis ça quand on parle de Dieu qui crée par sa parole ? Eh bien parce qu'en fait, au début de l'évangile de Jean, l'apôtre Jean nous explique que la parole par laquelle Dieu a tout créé, en fait c'est une autre manière d'appeler Dieu le Fils, qui a été un instrument dans cette œuvre de création. Et la chose devient encore plus compliquée quand notre texte nous dit que Dieu, l'Esprit, était aussi présent dans cette création. On peut lire au verset 2 « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». Dieu a tout créé par sa parole et avec la présence de son Esprit. Ça ne veut pas dire que Dieu a dit des mots et les choses sont apparues. Non, ça veut dire que Dieu le Père a créé par l'intermédiaire de Dieu le Fils sa parole dans une union parfaite avec Dieu l'Esprit Saint. Ce que ce texte nous dit avant tout, c'est que Dieu, dans toute sa personne, a participé à cette œuvre de création. Et cette création, dans ce texte, est dite harmonieuse. Dieu vit que cela était bon. Cette création complexe, elle est belle, bonne. Tout est bien coordonné, tout fonctionne parfaitement. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me touche particulièrement, parce qu'avant de faire mes études de théologie, j'ai fait 2 ans d'études de médecine et 5 ans pour un master de sciences de la vie et de la terre. Et la science, pour moi, ça a toujours été chercher à comprendre toute la beauté, toute la complexité, toute l'harmonie du fonctionnement de la création de Dieu. La création fonctionne, elle marche. Elle dure jusqu'à aujourd'hui et elle date pas d'hier. Elle est soumise à des lois physiques, des lois mathématiques qui font que tout marche, que tout est harmonieux et la science cherche à observer, à comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne. Comment Dieu a-t-il fait les choses ? Le message central de ce texte, c'est que Dieu, dans le mystère de sa personne une et triple en même temps, a créé toute chose de manière belle, bonne, harmonieuse. Mais c'est pas tout ce que nous raconte ce texte. Ce texte nous rappelle également que dans la création, rien n'est divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de morceau de Dieu ou d'autre Dieu dans la création. Tout n'est que créature. Dieu ne met pas de morceau de lui, de ce qu'il est dans la création, non. Il fait des choses qui sont différentes de lui. Alors, pour nous, Européens du XXIe siècle, ça semble normal. Quand on regarde la nature, on voit pas des morceaux de Dieu, des petites divinités qu'il nous faudrait adorer. Mais à l'époque de Moïse, lorsqu'il a écrit ce texte il y a plus de 3000 ans, c'était une révolution. Tous les peuples de l'époque avaient plein de dieux différents, et souvent ils adoraient des éléments de la nature. Par exemple, les Égyptiens, parmi lesquels Moïse a grandi, ils adoraient le soleil, le dieu Ra. Les Mésopotamiens, eux, ils adoraient la foudre, le dieu Baal. Mais ce texte de Genèse 1 nous dit que toutes ces choses, c'est pas des dieux, c'est que des bouts de création. Et ce soleil que les Égyptiens adorent comme leur plus grand dieu, eh ben ici, il est même pas mis en avant. Il apparaît qu'au quatrième jour, après la moitié, avec les étoiles, histoire de faire un peu de lumière. Le soleil, la lune, la foudre, nous, on les voit plus comme des choses divines. En revanche, dans notre société, je pense qu'il y a un bout de cette création qui nous avons tendance parfois à diviniser. Peut-être pas vous, mais je pense globalement, ça se ressent. On a tendance à diviniser l'être humain. L'homme a tendance à se prendre pour le dieu de cette planète, qui peut en faire ce que bon lui semble, qui a tout pouvoir sur cette terre, un dieu qui décide seul de sa propre vie, qui peut choisir lui-même ce qui est bien ou mal, qui est totalement libre. L'être humain se prend pour un dieu. Et pourtant, ce texte de la Genèse nous présente l'être humain comme une créature parmi les autres. Une créature un peu spéciale, hein, je suis d'accord, on va en parler après, mais une simple créature quand même. C'est une sorte d'humilité qu'il nous faut redécouvrir, que notre monde moderne a besoin de redécouvrir. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est lui qui nous a fait. Notre vie, c'est lui qui nous la donne. La vie, c'est un cadeau. Mais la plupart des gens vivent leur vie comme si c'était une évidence, comme si c'était normal de vivre. Alors que lorsqu'on prend conscience que nous sommes des créatures, que la vie est un cadeau, on vit plus pareil. Notre vie prend un sens tout nouveau. On vit plus de manière banale, comme si c'était normal. Non, on vit en rapport à celui qui nous a créés. On cherche à le connaître. On cherche une relation avec celui qui nous donne la vie. On vit pour lui, pas uniquement pour nous. Tout dans ce monde n'est que créature, nous également. Et nous trouvons donc l'origine, le sens de toute chose, même de notre vie, dans celui qui en est la source, Dieu, le Créateur. Nous sommes une créature parmi d'autres, mais tout de même, on est une créature un peu spéciale. Et ce texte nous le fait également comprendre. Nous sommes des créatures spéciales parmi toute cette création. Il y a une chose qui nous distingue des autres créatures. Dans le texte de la Genèse, Dieu dit ceci, « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image ». D'autres traductions disent « Faisons l'homme à notre image », mais je préfère celle-ci, je l'ai choisie exprès, « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image ». Bien souvent, les gens comprennent de ce passage que les êtres humains ressemblent physiquement à Dieu, qu'ils ont un petit quelque chose de Dieu en eux. Eh bien, en fait, pas du tout. Les mots hébreux, parce que le texte a été écrit en hébreu ancien à la base, les mots hébreux ici qui sont utilisés et qu'on traduit par image et par ressemblance sont les mêmes que ceux qu'utilisaient à l'époque de Moïse les rois, les empereurs, les chefs pour déléguer une certaine autorité à une personne. Un roi pouvait nommer une personne gouverneur une région de son royaume, de son empire, en lui disant « Je t'envoie là-bas comme mon image. » C'est-à-dire que le gouverneur va représenter le roi. Il aura une mission particulière de gestion du territoire qui lui est confié. Il représente l'autorité du roi. Il est l'image de son roi dans une région donnée. Lorsque les êtres humains sont créés comme image de Dieu, on ne parle pas ici de ressemblance physique. On parle d'une relation particulière, on parle d'autorité, on parle de responsabilité. Dieu a choisi les êtres humains parmi toutes les créatures pour avoir une relation particulière avec lui. L'humain ne sera pas qu'une créature parmi les autres, l'humain sera le gouverneur de Dieu, son représentant. Et en tant que représentant de Dieu, les humains ont accès à une relation particulière avec Dieu. Une relation que les autres créatures n'ont pas. Une relation intime de dialogue, de confiance, d'amour. Mais aussi, en tant que représentants de Dieu, les humains reçoivent une mission. Et lorsque Dieu décrète que les humains seront son image, il donne également directement la mission qui leur sera confiée. Et je vous relis ce passage. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dans ce passage, Dieu ne fait pas que nous donner une responsabilité, une mission particulière. Dans ce passage, Dieu donne une valeur immense et identique à la vie de tous les êtres humains. Tous, hommes ou femmes, de toute condition, de toute origine, Dieu nous a tous désignés comme son image, ses représentants sur cette terre. Chacun, nous avons un même statut, une même valeur à ses yeux. Tous égaux, tous précieux aux yeux de notre Créateur. Tous nous avons accès à une relation particulière auprès de lui et tous nous sommes appelés à une mission particulière, bien gérer sa création et en prendre soin. C'est la mission qu'il nous confie. Nous avons pour devoir de bien gérer sa création. Alors, ça doit nous interroger. Que penser de notre manière de vivre ? Qui détruit notre monde plus qu'autre chose, est-elle en accord avec cette mission ? Chaque vie humaine a le même prix, alors que penser des lois de certains pays, voire même d'une autre parfois, qui donnent le droit de mettre fin à une de ces vies de manière arbitraire ? Nous avons un statut particulier que n'ont pas les autres créatures, alors que penser de la sorte de mode qu'il peut y avoir actuellement, qui veulent donner aux animaux un statut égal à celui des humains. Ce texte, en fait, nous donne l'équilibre de vie que nous devons rechercher. Avoir conscience de ce que nous sommes, les images de Dieu, ses représentants, et donc comprendre que les autres créatures n'ont pas ce statut, cette même importance pour Dieu. Mais avoir conscience de notre mission également, prendre soin de la création de Dieu, mission qui nous montre que notre statut particulier aux yeux de Dieu ne nous permet pas de maltraiter sa création ou ses créatures. Et enfin, avoir conscience de notre égalité devant Dieu, une égalité que nous ne voyons pas toujours dans ce monde, mais qui est réelle pour notre Créateur. Toute vie humaine a le même prix. La Bible remet tous les humains, hommes et femmes, côte à côte, une même valeur, un même statut, un même prix, une même mission. Il était une fois, c'est le parcours que nous allons vivre durant les semaines à venir, il était une fois, ça commence ainsi. Dieu, unique mais trinitaire, a créé toute chose par lui-même. Il a fait une création bonne, belle, harmonieuse, qu'il est bon de contempler, d'étudier, de comprendre. et parmi toute sa merveilleuse création, il nous a choisis. Il a choisi les humains afin que nous soyons ses représentants, en relation avec lui, en communication avec lui. Tous égaux devant notre Dieu, tous unis dans notre responsabilité, même si tous différents dans notre individualité. Il était une fois un monde beau et harmonieux, des humains égaux, en lien avec leur Dieu, leur Créateur. Alors comment en est-on arrivé à ce que nous vivons aujourd'hui, qui ressemble très peu à ça ? Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Amen.